La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, la Suisse ne sera pas le premier pays au monde à instaurer un revenu universel pour ses habitants.
Non, le verdict est sans appel. Hier, les Suisses ont rejeté massivement, près de 77% des suffrages, la création d'un revenu de base pour tous, salariés ou sans emploi. Un projet unique au monde qui proposait de verser chaque mois à tous les Suisses et aux étrangers vivant dans le pays depuis au moins 5 ans une somme de 2 200 € par adulte, qu'il ait ou non déjà un emploi, et un peu moins de 600 € pour chaque mineur. Alors en réalité, ce nom n'est pas franchement une surprise, estime le quotidien de Lausanne, Le Temps, qui rappelle qu'à l'exception des Verts, aucune grande formation politique helvète n'y était favorable. Parmi les raisons qui auraient motivé ce nom, les journaux suisses mettent en avant les risques que ce revenu universel ne rétrograde la Suisse, un pays qui reste prospère et affiche des taux de chômage à faire pâlir ses voisins européens au rang des mauvais élèves économiques. Et puis une bonne partie des électeurs a eu de la peine, sans doute, à y voir autre chose qu'une idée tout simplement loufoque. Si les pros ont été pour la plupart mesurés et prudents dans le camp opposé, les arguments sont tombés de manière beaucoup plus massive. On n'ose même pas évoquer le cas du Parti Socialiste qui a vécu avec cette campagne une crise d'identité. Quand on se nomme socialiste en 2016 et que l'on ne veut pas de ce revenu universel, c'est que l'on est passé au mieux dans le camp des bourgeois conservateurs, au pire qu'on est scotché devant les vitrines du musée du syndicalisme. Les oppositions idéologiques ont aussi joué donc contre le principe même d'un revenu acquis sans condition, sans contrepartie et sans travail. À cet égard, la campagne des opposants à ce revenu universel était pour le moins symptomatique. On y voyait un homme blanc et gras, orné d'une couronne en papier doré, un roi fainéant, le Marcel maculé de taches, assis sur un canapé défraîchi, avec sur la table devant lui un cendrier plein de mégots, un reste de pizza et des canettes de bière. Le message était donc on ne peut plus clair. Si vous votez oui au revenu de base inconditionnel, alors vous encouragerez l'obésité, la fainéantise, la saleté et la dépendance. Moins caricatural, encore que un psychothérapeute interrogé dans les colonnes du journal suisse estimait lui que l'idée d'un revenu de base inconditionnel flattait ni plus ni moins que le nourrisson en l'homme. Vivre bien au chaud, manger, dormir et s'épanouir grâce à de riches stimulations, sans exigence de réciprocité, cela a un nom, dit-il, l'amour maternel inconditionnel et le rêve d'un biberon illimité.
Bon, mais la vraie question, et autrement dit le vrai problème, reposait sur le mode de financement de ce revenu universel, Thomas.
Oui, une augmentation des impôts n'aurait pas été souhaitable. Dès lors, comment introduire un revenu universel sans alourdir la charge fiscale? Réponse d'un professeur de finance à l'université de Zurich, en tenant compte des transformations du secteur financier survenues depuis une trentaine d'années. Celui-ci, dominé par des banques dites systémiques, est de plus en plus déconnecté de la sphère économique. Il est sous-imposé, alors que l'économie et la société sont au contraire surtaxées. Les flux financiers sont par ailleurs astronomiques. Ainsi, en Suisse, les paiements électroniques annuels correspondent à environ 100 000 milliards de francs suisses, c'est-à-dire approximativement 160 fois le produit intérieur brut, ce qui est complètement disproportionné. Or, une taxe de seulement 0,4% sur ces paiements générerait à elle seule 400 milliards de francs et devrait ainsi permettre non seulement de remplacer la plupart des impôts actuels, dont le total est bien inférieur à 200 milliards, mais aussi de financer le revenu universel pour les citoyens suisses, ce qui requiert environ 200 milliards de francs. Quoi qu'il en soit, que son financement soit donc réaliste ou non, les Suisses ont tranché, c'est non. En revanche, cette initiative aura au moins permis de susciter un débat intense, félicite la majorité des commentateurs helvètes. Des questions fondamentales ont été posées, comme les mutations qui affectent le monde du travail et l'avenir de l'État social. Les processus de production sont caractérisés aujourd'hui par une numérisation et une automatisation croissante. Or, les répercussions de cette dynamique sur nos modes de vie sont profondes et dépendent de l'organisation, bonne ou mauvaise, de la société. Dans le premier cas, hypothétique, une augmentation du temps libre en devrait être la conséquence. Et dans le second cas, réel, cette fois-ci, les effets sont plutôt opposés. Comprenez l'augmentation du chômage ou du sous-emploi avec une économie dont la croissance est insuffisante comparée à celle de la productivité. Il s'agit là du paradoxe d'une société toujours plus productive qui, parallèlement, génère sous-emploi et précarité. En clair, la production devient aujourd'hui de plus en plus efficace, mais la consommation, elle, est à la peine. Les robots produisent de manière efficiente, mais à l'exception de l'énergie, ils ne consomment pas, ils ne partent pas en vacances, ne vont ni au cinéma, ni au restaurant. Inversement, ceux qui auraient le plus grand besoin de consommer plus, en l'occurrence les chômeurs ou ceux qui n'arrivent pas à échapper au temps partiel, ne peuvent le faire. Une société civilisée et démocratique aurait du mal à survivre avec un chômage ou un sous-emploi trop élevé. Elle se doit donc de trouver des solutions et le revenu revenu universel en est une. Sur le revenu de base inconditionnel, il faut admettre toutefois que de profondes contradictions lézardaient l'édifice, écrit encore le courrier. Reste que les réformes, y compris d'ailleurs celles portées par la gauche, poussent aujourd'hui les plus précaires à se justifier toujours davantage, à vivre avec moins et exigent de s'adapter à un monde de plus en plus rigide. Et puis reste cette interrogation, si le travail paye de moins en moins, qu'est-ce qui fait la valeur d'un citoyen dans une société? Le revenu universel est né à la suite d'une série d'initiatives qui procèdent toutes de la même inquiétude face aux échecs de la globalisation. L'écart de richesse grandit, la classe moyenne se paupérise et la redistribution est en panne. Et la Tribune de Genève d'en conclure, l'important au-delà du vote est que les citoyens commencent à réfléchir à cette idée qu'il faudra tôt ou tard mettre en œuvre.
Merci beaucoup Thomas Cluzel. C'est vrai que la question du revenu universel est une question que traite beaucoup la presse internationale, y compris d'ailleurs la presse américaine, et on en parle encore très peu en France. Merci donc d'avoir évoqué ce thème.